le rayon BD science-fiction aux utopiales. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rayon BD pour une émission enregistrée aujourd'hui en public. C'est une première, nous sommes à Nantes pour la 20e édition des Utopiales, le grand festival de science-fiction dont France Culture est partenaire. Depuis vendredi, vous avez pu écouter sur notre antenne un certain nombre d'émissions, La Grande Table, La Conversation Scientifique, La Méthode Scientifique et hier soir Mauvais Genre avec entre autres Ludovic de Berme. Toutes ces émissions sont bien sûr à réécouter ou à télécharger sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et aujourd'hui, dans le rayon BD, trois auteurs, trois visages de la bande dessinée de science-fiction. À mes côtés, Valérie Mangin, qui est scénariste. Elle signe chez Casterman depuis quelques années la série Alix Senator, qui reprend en le vieillissant d'une trentaine d'années le personnage d'Alix, créé par Jacques Martin. Mais c'est surtout et d'abord comme scénariste de science-fiction que Valérie Mangin s'est fait connaître. On peut citer les séries des Chroniques de l'Antiquité Galactique chez Soleil, Expérience Mort chez Ankama avec Jean-Michel Ponzio au dessin, des adaptations et en particulier Rayon pour Sida, une adaptation de Stéphane Vull avec Emmanuel Civiello, toujours chez Ankama, et aussi des one-shots plus historiques comme Trois Christs autour du mystère du Saint-Suaire chez Astrolab avec Denis Bajram. Bonjour Valérie Mangin.
Bonjour.
À ses côtés, enfin de l'autre côté de la table, Robin Cousin, qui s'était fait remarquer il y a 2 ans avec Le Profil de Jean Melville, un thriller d'anticipation, très légère anticipation, mais très anxiogène, centré sur la technologie des smart glasses, ces lunettes intelligentes et connectées, et qui a signé cette année, toujours chez Flubbelub, FLBLB, si vous ne connaissez pas encore cette maison d'édition tout à fait réjouissante, chez Flubbelub, donc Robin Cousin, qui revient avec des milliards de miroirs, qui est sélectionné cette année pour le prix BD des Utopiales. Alors je dois dire que l'heure où nous enregistrons cette émission, le résultat du vote n'a pas été proclamé, je ne suis même pas sûr que le scrutin soit clos, puisque c'est un vote public, mais à l'heure où vous nous écoutez, les auditeurs, on connaît le vainqueur, et nous publions donc bien sûr sur le site internet le résultat du vote. Vous pourrez savoir si Robin Cousin a eu le prix. Bonjour Robin Cousin.
Bonjour.
Et notre troisième invité, et nous commencerons avec lui, c'est Mathieu Babelet, un auteur qui s'est imposé en 3 livres parus chez Ankama comme un grand nom de la bande dessinée de science-fiction. Son dernier livre, Shangri-La, en particulier, l'avait révélé au grand public. Mathieu Babelet qui est à l'honneur cette année aux Utopiales avec une exposition et surtout avec l'affiche du festival que les gens qui sont dans la salle de la Cité des Congrès peuvent voir au-dessus de nous. Les affiches des Utopiales sont toujours très attendues, très observées, parce qu'elles sont toujours, ou le plus souvent, très belles. Il y a 20 ans, c'est Enki Bilal qui avait signé la première. Depuis, de grands illustrateurs lui ont succédé. Et je voudrais qu'on commence en écoutant deux, qui parlent du rapport de la science-fiction et de l'image. C'était en 1980. Vous n'étiez pas né, Mathieu Babelet, moi non plus, d'ailleurs. C'était sur France Culture, dans Les Nuits Magnétiques, Philippe Druyet et Jean-Claude Mézières.
Quand j'ai commencé à dessiner, j'étais absolument incapable de dessiner une voiture, un cow-boy ou n'importe quoi. Et ce qui m'a intéressé dans la science-fiction, c'est que je pouvais imaginer tout. Les fusées, les engins, les personnages, les costumes, c'était une liberté totale. Mais quant à l'apport de la technique, bon, ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe au niveau technique aujourd'hui, que ce soit au niveau des computers, que ce soit au niveau du laser, parce que ce sont des choses très intéressantes. Mais graphiquement, on part dans des directions différentes. Enfin, moi, comme Jean-Claude, d'ailleurs, comme la plupart, on sait très bien, par exemple, quand on dessine un cosmonaute ou un aventurier de l'espace dans sa fusée, on aime dessiner les manettes et les boutons. Si on est logique avec soi-même, toute la démarche de l'être humain au niveau de la technique actuellement va vers la miniaturisation. Or, nous, les vaisseaux qu'on dessine, ils sont absolument pas miniaturisés. Il y a des kilomètres et des kilomètres d'écran avec des boutons partout. C'est parce que ça nous plaît, c'est une forme de mythologie. Mais dans le réel concret, dans le futur, c'est une chose qui semble pas possible et absolument fausse. Donc il y a un décalage entre la science et tout ce que nous amène la science, et en même temps, bon, l'imagination et le graphique. Donc c'est entre ces deux tabourets qu'on saute de l'un à l'autre.
Oui, en plus que le dessin de bande dessinée fait complètement fi de la réalité, une réalité même à la conquête de l'espace, par exemple. Bon, aucun des dessinateurs, je crois, surtout pas autour de cette table, se préoccupe de ce qui se passe à la NASA ou ce qui se passerait en Russie, par exemple, parce qu'on est beaucoup plus loin que ça. Nous, les galaxies, on les a déjà conquises depuis très longtemps. Et ce qui compte, c'est l'aspect graphique. C'est au fond ce que notre dessin peut exprimer. Si, ça marche, comment ça marche, ces fusées-là, on n'en a rien à foutre, quoi. Vraiment, ça ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est l'impact de l'image.
Alors, Mathieu Babelet, on va parler de cette affiche que vous avez réalisée, de cette magnifique affiche des Utopiales 2019. Mais d'abord, un mot de réaction à ce que disaient ces deux légendes vivantes de la bande dessinée de science-fiction, Philippe Druyet et Jean-Claude Mézières. Alors on pourra reparler de ces kilomètres d'écran. Vous, c'est plutôt des kilomètres de tuyaux et de câbles qui occupent vos vaisseaux. mais cette cohérence graphique qui prime sur la réalité, sur la technique, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, je suis parfaitement d'accord, et c'est effectivement un jeu d'équilibre, donc d'équilibriste, à trouver entre ce qui va nous faire plaisir de dessiner, ce qui va permettre au lecteur de s'immerger dans un univers, et une véracité scientifique qui incombe à la science-fiction, parce qu'il y a quand même une problématique de raconter des choses qui soient tangibles, qui soient pas trop loin de l'imaginaire du lecteur. Et effectivement, ouais, tout un jeu d'équilibre, et c'est exactement la problématique que j'ai eue sur l'affiche.
Mais pas trop loin de l'imaginaire du lecteur, mais par contre peut-être loin de ce que la NASA, comme le disait Jean-Claude Mézières, est en train d'anticiper ou de prévoir.
Oui, tout à fait. Par exemple, sur Shangri-La, j'ai plutôt utilisé ce qu'on appelle du rétrofuturisme, à savoir le futur usé qu'on voit dans des films comme Alien, avec des gros cargos poussiéreux, etc. Donc là, d'un coup d'un seul, on est dans un futur qui nous raccroche à une réalité tangible. Et je pense que c'est ça qu'il faut trouver. C'est vraiment cette tangibilité-là qui peut pas être abscon par rapport à la véracité scientifique.
Alors parlons de cette affiche que vous avez réalisée cette année, puisqu'un festival commence par une affiche. C'est la première image qu'on voit avant même le début du festival. Sur cette affiche, on reconnaît la ville de Nantes, en particulier le château des Ducs de Bretagne, qui est surélevé au-dessus des eaux, au-dessus d'un paysage de rizières avec des kayaks. Alors comment est-ce que vous avez pensé cette affiche ? Il faut dire qu'il y a deux contraintes, je crois. Premièrement, qu'on voit la ville de Nantes, ou quelque chose qui évoque la ville de Nantes. Et deuxièmement, le thème de l'année. Cette année, le thème, c'était coder, décoder. C'est pas un thème qui paraît graphiquement très évident.
Non, c'était un thème très compliqué. Quand je l'ai reçu, je me suis dit qu'il y avait eu probablement dans les éditions passées des thèmes bien plus simples à traiter. Et en l'occurrence, j'ai dû le tordre un peu pour que graphiquement, je trouvais quelque chose d'intéressant. Parce que c'est vrai, coder, décoder, on pense au code informatique et on est très vite limité dans son imaginaire. Tandis que si on élargit un peu le thème et qu'on parle de décoder la ville de Nantes, et en l'occurrence vu qu'on est dans un festival de science-fiction avec cette prospective de savoir comment dans le futur elle se réimaginera face aux enjeux climatiques, il y a un imaginaire qui s'élargit et qui est bien plus intéressant.
Alors ces enjeux climatiques, bien sûr, c'est un des grands thèmes, un des grands ressorts de la science-fiction aujourd'hui. Là, sur votre affiche, les eaux ont monté. On voit donc la ville de Nantes qui est surélevée. Pour autant, l'affiche n'est pas anxiogène. Les gens ont l'air assez tranquilles. Je disais, il y a des gens qui font du kayak, d'autres qui sont en train de pêcher à la ligne, d'autres qui ont l'air de buller, on peut dire ça. On n'est pas dans une ambiance post-catastrophe, comme vous savez si bien les rendre, par exemple, au début de La Belle Mort. Alors là, la catastrophe a eu lieu, mais les paysages sont dévastés. Là, il y a quelque chose d'assez onirique avec ces bleus, ces verts qui sont très francs, finalement très gais.
Oui, et du coup, je m'inscris complètement dans ce que disait dans ce qu'on a écouté Philippe Dourier et Jean-Claude Mézières, à savoir qu'à un moment, le côté graphique prime et qu'on peut pas faire une affiche catastrophiste pour un festival de science-fiction, ça donne pas envie. Et il y a donc ce paradoxe à vouloir représenter le futur tout en sachant que c'est pas un futur réel et envisageable. En l'occurrence, il est exagéré et fantasmé.
Les rizières, par exemple, c'est pas quelque chose de vraisemblable.
Non, les rizières, c'est pas quelque chose de ressemblable, mais même dans cette problématique de château surélevé, c'est très chouette graphiquement, mais dans les faits, ça paraît bien compliqué pour préserver la montée des eaux.
Quand on regarde votre affiche, on pense assez immédiatement à Miyazaki, avec les couleurs, je l'ai dit, mais avec ses ballons dirigeables, avec ses nuages, avec ce château dans le ciel, évidemment. Dans votre exposition, on voit que Miyazaki est une de vos influences. Vous pouvez vous amuser à dessiner des choses, à redessiner des choses. Il y a aussi Spider-Man, il y a aussi Zelda. Une petite question peut-être sur vos influences dans la sphère dite franco-belge. Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont marqué ou qui influencent votre travail ?
Oui, alors spécifiquement dans la sphère franco-belge, et sans être très original, ça sera les grands maîtres et les grands classiques, et Moebius en premier. Causé ensuite pour sa science du découpage et son ancrage, et puis des Druyer et des Mézières, enfin vraiment en SF on a été garni en France et en Belgique de ce côté-là.
Alors votre prochain livre, on en voit quelques planches dans l'exposition aussi. Il faut dire que quand on regarde vos planches, d'abord Tous ceux qui ont vu vos bandes dessinées sont frappés par ces décors, cette profusion, je disais, de câbles, de boulons, d'alimentation, de tuyaux qui courent partout. Il y a une sorte de frénésie graphique comme ça. Ça semble continuer dans votre prochain livre qui a pour thème l'intelligence artificielle. Je précise que quand on voit le travail original, vous ne posez même pas les cases à l'avance, vous ne faites pas le blanc entre les cases, donc les cases se touchent les unes les autres et les traits se confondent là où plus tard vous dessinerez les blancs, ce qui renforce encore cette impression de vertige. On se demande comment vous vous y retrouvez quand vous construisez vos planches.
Ça peut devenir très très bordélique à un moment. Oui, il faut essayer de pas se perdre, et ça fait partie de mon travail au fur et à mesure, justement, de gagner en lisibilité, de mettre du détail mais au bon endroit et pas trop.
Et donc le prochain livre, c'est encore de la science-fiction et c'est sur l'intelligence artificielle. Il m'a semblé voir des décors qui me rappelaient les bords du Gange ou quelque chose comme ça. Est-ce que je me suis trompé ?
Oui, c'est exactement ça. Alors oui, parce que ça sera encore un récit d'anticipation, vraiment dans la veine de Shangri-La, parce qu'il y a des problématiques de société qui m'intéressent de traiter dans les œuvres de science-fiction. Par définition, ça prend sens. Et en l'occurrence, c'est montrer justement cette avancée technologique avec l'intelligence artificielle, le transhumanisme qui rentre en confrontation avec les urgences climatiques, les futures crises migratoires, et de montrer ça à travers le monde entier, parce que nous, finalement, on a un regard très occidental par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on voit l'Inde et qu'on verra d'autres pays, parce que tout le monde ne va pas vivre ces problématiques de la même manière.
Alors ça, c'est pour 2020, donc pour l'année prochaine. Votre actualité la plus brûlante, Mathieu Babelet, c'est la sortie du tome 4 de Midnight Tales, qui est donc la fin du premier cycle. Midnight Tales, c'est une aventure collective. Vous orchestrez, vous scénarisez la plupart des bandes dessinées. Chaque volume compte 4 récits dessinés et une nouvelle, plus des planches de documentation, des planches d'un peu d'explications historiques. Et c'est sous l'égide du label 619, donc chez Ankama. Quand on orchestre une aventure collective comme ça, qu'on n'est plus seul maître à bord, qu'est-ce que ça fait de voir arriver des dessins qu'on a peut-être pensé, surtout quand on est dessinateur, quand on pense à un univers, quand on pense des images, et qu'on confie le bébé, si je puis dire, à d'autres? Qu'est-ce que ça fait de voir arriver ces images?
En fait, ça fait très bizarre, parce que quand on a l'habitude de travailler seul, il n'y a pas de distinction entre ce qu'on a pensé et ce qui arrive et ce qui est ensuite couché sur papier. Tout concorde. Et là, il faut faire l'exercice de se dire, ça va être différent. Le résultat final sera aussi imaginé par d'autres personnes, d'autres autrices et auteurs. Et du coup, voilà, il y a un travail complètement différent à faire, mais qui était un exercice que je voulais, justement. Et c'est pour ça que j'ai demandé à créer cette collection, parce que le travail collectif me manquait par rapport au travail très solitaire que j'ai quotidiennement sur mes one-shots.
Valérie Mangin, je me tourne vers vous, qui êtes une scénariste prolifique, on l'a dit, qui avait travaillé avec de nombreux dessinateurs. Quelle est votre expérience en la matière? Quand vous pensez un univers, quand vous pensez une histoire, est-ce que vous, même si vous-même n'êtes pas dessinatrice, je crois, est-ce que vous avez des images qui vous viennent? Et est-ce qu'après, voir la réalité de ce qui a été fait par le dessinateur que vous avez choisi, je suppose, c'est une expérience qui peut être...
Ah, c'est très très étrange. Je me souviens, mon premier album, donc c'était Le Fléau des Dieux, donc c'était une des chroniques de l'Antiquité Galactique. J'avais imaginé tout un univers là-dessus, autour des Romains dans l'espace. J'avais un univers peut-être un peu old school, un peu rétro-futuriste. Et le dessinateur avec qui je travaillais, Alex Agadjic, à l'époque, avait une vision mais totalement différente de la mienne. Et j'adorais son dessin, j'adorais vraiment son boulot. Et quand j'ai vu arriver ses premières planches, j'étais extrêmement surprise. C'était pas du tout, mais pas du tout ce que j'attendais. En bien, j'ai vraiment beaucoup adoré ensuite son travail, mais c'est vrai qu'il m'a fallu un petit temps d'adaptation, en fait, pour me dire non, ça allait pas être mon projet en solitaire, vraiment ce que j'avais dans la tête qui allait ressortir, mais vraiment un mixte, finalement, à la fois de ce que je voyais et de ce qu'Alexa voyait. Et c'est vrai que c'est ce qui fait l'intérêt du travail en collaboration, finalement, on sort de soi-même, on est surpris, on est dérangé par l'autre, et ça met notre travail à évoluer, et j'espère à s'améliorer, oui.
Alors, vous avez écrit beaucoup de scénarios, et vous avez aussi fait une, je crois que c'est la seule, une adaptation. Peut-être que je me trompe, non ?
C'est la seule, oui.
La seule adaptation, c'était Rayon pour Sidar de Stéphane Vull, qui est un auteur, évidemment, une figure importante ici aux Utopiales. Je voudrais qu'on écoute quelques instants Stéphane Vull. C'était au micro de Michel Pollack à la télévision en 1971.
Je vais demander à Stéphane Vull de nous dire son point de vue d'auteur. Il est l'auteur de Nurk, de la collection Présence du Futur, et d'un livre qui a une très belle couverture, chez Robert Laffont. Vous êtes, vous jouez sur les deux tableaux, hein, chez les deux éditeurs.
Oui, ça présente des avantages et des inconvénients.
Les œuvres de Stefan Wul, Le Temple du Passé, Piège sur Zarkas, La Mort Vivante. Alors dites-nous un peu votre réaction à tout ce qu'on vient de dire.
Eh bien, je suis étonné d'abord d'entendre parler de sociologie fiction, de biologie fiction, de morale fiction, et je n'entends jamais parler d'exotisme fiction, de couleur fiction, si vous voulez. Pour moi, la fiction, il me semble que c'est surtout une question de dépaysement. Et nous ne sommes pas les descendants de Jules Verne, ni de Karl Marx, mais nous sommes tout simplement les descendants de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand. Enfin, pour moi, c'est ma conception de la science-fiction.
Ah.
C'est pourquoi on a reproché à une certaine science-fiction de ne pas faire de psychologie,
ouais.
de ne pas être intelligente. Mais un tableau n'a pas besoin d'être intelligent. Ouais.
Ah oui, mais alors, si je comprends bien...
Plus ailleurs que demain.
Stéphane Wul, étant donné qu'on a fait maintenant le tour du monde et qu'avant on aimait bien lire l'histoire qui se passait à Tombouctou ou en Chine et que maintenant ça ne paraît plus exotique, on invente l'avenir comme étant d'exotisme.
Il est évident que les agences de voyage mettent les horizons à la portée de toutes les bourses, alors il faut en trouver d'autres maintenant.
Oui, c'est ça.
Il faut aller beaucoup plus loin.
Bon, maintenant la Lune c'est fini, il va falloir que vous alliez encore plus loin.
Ah oui, non seulement c'est fini, mais du point de vue technique c'est dangereux, parce qu'on risque de dire des bêtises qui vont être, anéanties.
Alors voilà, chez Michel Pollack, c'était toujours un joyeux foutoir à la fin. Donc l'intervention de Stefan Wul n'a pas de fin. Valérie Mangin, cette idée toute simple d'un exotisme, vous qui venez d'un horizon classique, puisque vous êtes latiniste, vous êtes historienne, vous êtes diplômée de l'école des Chartes, est-ce que vous revendiquez ces héritages, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand ou d'autres, plutôt que celui de Jules Verne? On parlera peut-être après de Marx, mais Jules Verne qui est ici, pour le coup, vraiment une figure tutélaire des utopiales, est-ce que ça vous paraît pertinent aujourd'hui?
Alors, ça me paraît assez pertinent, parce que la science-fiction, c'est vrai que c'est d'abord un exotisme. C'est d'abord des surtout spécialement dans le cas de Stefan Wul, lui qui créait toujours des mondes très exubérants, très baroques. Moi, j'ai adapté Rayon pour Sida. Vous savez qu'on est sur une planète assez tropicale, avec des montagnes fantastiques, avec des marais incroyables, avec des animaux aussi extrêmement bizarres, extrêmement exotiques.
Des végétations aussi.
Une végétation luxuriante, voilà, enfin, qui était très plaisante d'ailleurs pour le dessinateur à rendre en bande dessinée, parce qu'évidemment, c'est très graphique tout de suite, c'est très facile. Ensuite, je pense qu'on a beau faire, on a beau ne pas le vouloir, Stefan Wul ne le voulait pas visiblement, on est malgré tout l'héritier de Jules Verne, de Karl Marx aussi en quelque sorte. C'est assez amusant que Wul en parle, parce que dans Rayon pour Sidar, il décrit une planète que les terriens ont colonisée. Alors Rayon pour Sidar, ça date de 1957, hein, donc la décolonisation n'est pas encore faite, et il ne se rend pas compte qu'il parle de la colonisation française en Afrique en fait. Alors, je suppose que c'était inconscient chez lui, mais on a beau faire, on est l'héritier de ce qui nous a précédé. Et il a beau faire, il parle quand même de vaisseaux spatiaux, il parle quand même de technologie. Je veux dire, il fait du Jules Verne sans le vouloir, du Karl Marx sans le vouloir. Alors, il n'est pas marxiste en l'occurrence, c'est plutôt de l'autre bord politique, mais politique malgré tout. Quoi.
Dans votre adaptation, vous avez renforcé ce côté politique, ces réflexions sur la colonisation, la décolonisation.
Oui, tout à fait. Moi, arrivant en 2010, évidemment, je ne pouvais plus jeter le même regard sur ces sympathiques indigènes que Wul en 57. Et pour Wul, la colonisation, c'est très bien parce que le terrien est là pour aider les extraterrestres à s'épanouir et à créer une civilisation. Bon, ça, ces idées-là, on en est un peu revenu. On sait que les peuples ont leur propre culture, leur propre civilisation, n'ont pas besoin de nous, gentils Français, pour se développer. Et ça, j'ai voulu le traduire un peu dans le roman. Et aussi, déjà, j'ai changé la fin, c'est-à-dire que les terriens n'aident plus Sidar à se libérer, les Sidariens, enfin... vont se libérer tout seuls en quelque sorte, et surtout dans Rayon pour Sidar, le héros était représenté par un double robotique qui était parfaitement conscient et parfaitement humain en quelque sorte, qui avait des sentiments et des émotions.
Et capable de prendre des décisions.
Capable de prendre des décisions, mais qui était tout de même réduit en esclavage par le héros, qui ne s'en rendait pas compte d'ailleurs, qui ne se posait même pas la question. Et ça évidemment, j'ai voulu aussi libérer le robot en fait, et en faire un héros à part entière. Quoi. Et à la fois le robot et les extraterrestres vont se libérer ensemble finalement de la tutelle des terriens.
Donc la science-fiction comme genre politique, ça paraît aujourd'hui assez évident. D'ailleurs, ces jours-ci aux Utopiales, Valérie Mangin, vous avez participé, vous participez à plusieurs tables rondes, dont une sur l'exercice du pouvoir, une sur l'antiquité des codes, le futur. Donc la politique politicienne, vraiment l'exercice du pouvoir, c'est une question qui vous intéresse, que ce soit dans l'antiquité. J'ai dit tout à l'heure que vous vous intéressiez à Alix Senator, donc le Sénat sous l'Empire, début de l'Empire romain, ou bien au XVIIIe siècle, puisque vous avez fait une thèse sur la grande chancellerie sous Louis XVI.
Vous revenez en arrière, là.
Au XVIIIe. Non, mais cette question de la politique politicienne, elle a une place, elle a une pertinence dans les récits de science-fiction.
Oui, je pense que la science-fiction doit être politique, c'est pas une obligation, évidemment, absolue. Mais pour moi, c'est un de ces grands... La science-fiction doit nous amener à réfléchir sur nous-mêmes, en fait. Si on ne parle pas de nous, à un moment donné, ça perd beaucoup moins de son sens quand même.
Alors au début de cette année, vous aviez milité pour que le Grand Prix d'Angoulême soit remis à Rumiko Takahashi, et vous avez d'ailleurs été exaucé. Elle était japonaise, ce qui est rare pour un Grand Prix d'Angoulême. Elle était autrice d'une œuvre destinée à la jeunesse, ce qui est rare aussi, mais surtout elle était une femme, et ça c'était extrêmement rare, puisqu'il y avait eu un seul précédent comme Grand Prix d'Angoulême, c'était Florence Sestac, en 2000 je crois. Dans la bande dessinée, les femmes sont de plus en plus présentes, ça c'est un lieu commun de le dire, mais la bande dessinée de science-fiction reste un univers peut-être très masculin, peut-être d'ailleurs la science-fiction en général. Est-ce que vous diriez qu'il est très ou trop masculin?
Il est très masculin, trop, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus d'autrices qui écrivent dans tous les genres. C'est vrai que là, la BD de science-fiction, on est un peu au croisement de deux genres qui étaient très, très virils, entre guillemets, très occupés par les hommes. C'est vrai que Rumiko Takahashi était un peu une exception en manga, mais être aussi connue, être aussi reconnue, c'est vraiment très très rare. Et on voit qu'à mon époque, quand j'ai commencé la bande dessinée, on était 12% de femmes à peu près. Je crois qu'aujourd'hui, chez les jeunes autrices, dans la trentaine, c'est 50%. Donc on voit que les choses sont en train de changer. Je ne sais pas si en littérature de SF, c'est la même chose. Et puis il faut dire qu'en BD aussi, on a la chance d'avoir, c'est peut-être pas en SF, mais d'avoir Marion Montaigne, qui a écrit sur Thomas Pesquet, qui a écrit beaucoup sur les questions scientifiques. Et je crois que sa présence fait beaucoup aussi pour servir de modèle finalement aux jeunes autrices qui voient que c'est possible et de faire de la bande dessinée, et de s'intéresser aux sciences et de réussir.
France Culture, Le Rayon BD, Victor Massé de l'Épinay.
Le temps file et il est temps de me tourner vers notre troisième invité, Robin Cousin, qui est dans la trentaine, mais qui est un homme, donc dans les 50% masculins des jeunes auteurs de bande dessinée. Robin Cousin, je le disais, qui est en compétition pour le prix Utopial, pour le prix bande dessinée des Utopiales cette année. Il faut quand même citer les autres nominés. Un gentil orque sauvage de Théo Grosjean chez Delcourt. Peau de mille bêtes de Stéphane Fer chez Delcourt également. Le dieu vagabond de Fabrizio Dori chez Sarbacane, Femme sauvage de Tom Tirabosco chez Futuropolis, et donc vous, Robin Cousin, pour Des milliards de miroirs chez Flubbelub. Le jury va voter, il est souverain, je ne voudrais pas influencer sur sa décision, mais parmi ces cinq beaux livres, je dois dire qu'au rayon BD, vous êtes notre favori, Robin Cousin. Vous êtes aussi...
Merci.
À mon avis, très personnel, le seul livre qui soit réellement de la science-fiction. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter les travaux de vos concurrents. Je ne sais même pas si, d'ailleurs, vous les avez tous lus. Mais est-ce que la science-fiction, c'est, d'abord, je crois que c'est un genre que vous revendiquez. Mais alors, peut-être, une super question piège, en une minute, comment est-ce que vous définiriez la science-fiction? Parce que en lisant cette sélection de bande dessinée, je me suis dit, il y a un problème de définition.
Ah ben je sais pas du tout. Moi je me définis pas comme auteur de science-fiction. C'est juste que j'aime les sciences. Du coup j'en parle quand je fais de la BD. Souvent d'ailleurs j'essaye d'arrêter d'en parler et puis ça revient toujours malgré moi. Donc une définition, ce serait une œuvre qui prend la science au sérieux comme source d'idées, quoi. Pas plus que ça.
Ouais. La dimension politique dont parlait Valérie Mangin à l'instant, qui est quand même assez présente, si elle n'est pas la politique politicienne, l'exercice vraiment du pouvoir, c'est pas le sujet de vos livres, mais le vivre ensemble, faire société, la question de la liberté procurée ou limitée par les nouvelles technologies, ça ce sont des questions qui vous intéressent.
Ouais, ça m'intéresse, mais à partir du moment où on publie un livre, c'est politique, et du coup il faut s'interroger sur quel sens ça a de faire lire ça au plus grand nombre. Donc voilà, je sens une sorte de responsabilité, donc j'essaie de parler de trucs qui me semblent importants quand je sors un livre.
Alors on peut pas raconter tout le livre Un milliard de miroirs, qui est une histoire assez, un récit un peu choral avec beaucoup de personnages. Simplement dire que ça se passe dans un futur proche, que le péril écologique qui est le nôtre aujourd'hui est finalement plus grand encore. La vie animale est conservée dans des sortes de serres gigantesques dans lesquelles on reproduit les écosystèmes des pôles de la forêt amazonienne et des autres, et que tout d'un coup, grâce à une invention dont on parlera, un hyper télescope composé d'une grande sphère de milliards de miroirs tout autour de la Terre, ça c'est d'ailleurs une invention qui existe, enfin qui n'existe pas, mais dont le projet qui est en travail avec un scientifique que vous avez rencontré.
Oui, qui s'appelle Antoine Labéry. Qui a été, qui m'a en gros donné l'idée de la forme de cette espèce de sphère de miroir qui permet de regarder dans l'univers à plus que 360 degrés, je sais pas combien de degrés.
360
ça fait,
degrés dans l'espace.
Dans tous les sens.
Au voilà. Carré, disons.
C'est ça. Et donc c'est une très belle idée qu'au lieu de faire un énorme miroir, on fait plein de petits miroirs dispatchés qui permettent de recomposer des images très, très fines d'objets très lointains.
Et donc, grâce à ce milliard de miroirs, on découvre peut-être une trace de vie extraterrestre à 45 années-lumière de la Terre, ce qui techniquement ne change rien pour la vie de l'humanité, puisque la catastrophe écologique est en cours et déjà bien avancée, et puis que pour aller à 45 années-lumière, c'est totalement impossible.
500 000 ans avec une
à l'époque,
fusée
actuelle. Voilà, à l'époque, oui, mais même dans le futur proche, on un peu moins. Et pourtant, ça va bouleverser tous les comportements des hommes et des femmes de la Terre, ceux qui sont progressistes, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont religieux. Tout va changer à cause de cette prise de conscience d'une vie extraterrestre.
Oui.
D'une possible vie extraterrestre.
Ouais, c'est parti d'une question. En fait, cette idée, elle est partie de la découverte du boson de Higgs qui a fait parler de lui pendant un jour, et puis après, on n'en parlait plus. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, c'est une énorme découverte et ça change pas grand-chose dans la vie des gens. Et qu'est-ce que ça ferait si on avait la certitude qu'il y a une civilisation extraterrestre quelque part, sachant qu'on peut pas les rencontrer, qu'on peut pas y aller, et que pour communiquer avec eux, ça serait très compliqué. Et donc j'ai posé cette question-là à mes amis, et tout le monde avait une réponse différente. Certains disaient que ça créerait des guerres de religion, d'autres que ça changerait rien du tout. Et en fait, l'idée du bouquin est partie de ça, et ensuite la question écologique, en fait, elle est arrivée dans un deuxième temps, juste parce que ça se passe dans un futur proche. Et en fait, j'ai l'impression que de nos jours, quand on fait une histoire qui se passe dans un futur proche, on est obligé de parler d'écologie. Donc ça, c'est arrivé dans un deuxième temps, et ça s'est mêlé en fait à cette question.
Alors, en début d'émission, on entendait Jean-Claude Mézières et Philippe Drouillet qui parlaient de la réalité scientifique de ce qu'ils écrivaient, des univers qu'ils créaient. Ils disaient, et d'ailleurs Mathieu Babelet était assez d'accord, finalement, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la cohérence graphique, d'abord. Vous nous disiez que vous aimez la science. D'ailleurs, cette année, vous avez été en résidence pendant quelques mois à l'Université de Poitiers, au contact de scientifiques, avec une question, je crois, qui était votre fil rouge. La science peut-elle sauver l'humanité?
Alors, le monde.
Peut-elle sauver le monde? Ah, c'est différent. Je ne vais pas vous demander... Enfin, peut-être que vous avez la réponse. La science peut-elle sauver le monde, mais...
La réponse, c'est non.
La réponse, c'est non. Et les scientifiques ont eu du mal à vous la donner, ou c'était tout de suite évident? Si vous l'ont donné rapidement, qu'avez-vous fait pendant ces 3 mois?
Bien sûr, c'était une fausse question. C'était plus pour entamer une discussion. C'était une question volontairement simpliste. Ce qui me passionne dans les sciences, c'est cette manière de pousser la description du réel, on va dire, le plus loin possible. Et en même temps, il y a toujours une frontière à un moment où les sciences s'arrêtent et on peut plus utiliser les sciences pour décrire le monde. Et j'aime bien souvent placer mes histoires juste sur cette frontière-là. Donc demander aux chercheurs, est-ce que la science peut sauver le monde? Ben, ça interroge justement la limite des sciences. Il y a toujours, ça crée un vertige que j'aime bien. J'aime bien me poser dans ce vertige-là de la limite de l'approche rationnelle des sciences.
Merci à tous les trois, Mathieu Babelet, Valérie Mangin et Robin Cousin. Sur le site internet de l'émission, vous pourrez retrouver les bandes dessinées dont nous avons parlé aujourd'hui et contempler, si ce n'est déjà fait, l'affiche des Utopiales de cette année. Le Rayon BD, c'est donc terminé pour aujourd'hui. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre, avec à la technique Christian Labourdès, Christophe Papon et Alexandre James. La semaine prochaine, nous changeons d'étagère sur le Rayon BD puisque nous parlerons de l'œuvre de Roba à l'occasion des 60 ans de Boulet Bill. Mais pour l'heure, vous pouvez rester à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le magazine de l'environnement de Cause à Effet d'Aurélie Luneau.